Bonjour. C'est bon de vous voir ce matin pour être ensemble, louer notre Dieu. Ce matin, il m'est arrivé une petite aventure. Pendant que je mangeais ma toast, mon dentier a fendu en deux. Alors, je me suis dit, j'appelle Yolan. Non, j'ai dit, je ne ferai pas ça. Non, pas ce point-là, pas ce point-là. Non, mais je me suis dit, hey, qu'est-ce que je fais là? Puis là, j'ai dit, je démissionne, je tombe malade ou je sais pas, quoi. J'ai dit, non, je vais y aller prêcher. Puis, s'ils me comprennent pas, ils me feront des signes, puis j'essaierai de me... En tout cas, parle une affaire, toi. Ah là là, en tout cas. Est-ce que vous me comprenez?
Oui.
Bon, OK. C'est un bon signe. Ah, prions, s'il vous plaît. Bon, Père Céleste, on veut te remercier. On veut te remercier pour qui tu es. Merci que tu veux te révéler à nous, tu veux te faire connaître. Et on te prie, notre Dieu, que tu puisses trouver dans notre cœur, de chacun de nos cœurs, un désir de te connaître. Un désir de pouvoir t'apprécier pour qui tu es, pouvoir t'adorer pour qui tu es. Désirer te suivre, désirer te servir. Père, tu nous as laissé ta parole justement pour te révéler à nous. Et on te prie que tu puisses nous accompagner, nous instruire, nous enseigner, toucher nos cœurs par ton esprit et continuer la transformation que tu veux faire en chacun d'entre nous. À la gloire de ton nom et au nom de ton Fils. Amen. Alors, c'est ça, ça fait un bout de temps qu'on fait, que, quand j'ai l'occasion de vous apporter la parole, de regarder le sujet de la fiabilité de la Bible. Et c'est la cinquième, puis j'aurais pu étirer ça, mais à un moment donné, je me suis dit, ben là, on va éventuellement passer à autre chose dans la parole. Mais c'est une bonne question à se poser. Parce que c'est sur cette parole que Dieu nous a laissée que repose notre connaissance de Dieu, la foi, et qui devrait avoir un impact dans notre quotidien, dans notre vécu. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le 1er avril 1945, l'armée américaine a pris d'assaut l'île de Okinawa. Et là, c'est une petite île là, au sud du Japon, mais ça appartient présentement au Japon. Alors, les soldats sont arrivés là, puis ça a pris un certain temps avant qu'ils puissent on dirait, avoir le dessus. Mais les soldats, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des villages caractérisés par la pauvreté, la négligence, puis l'insalubrité. Mais Sima Bouquet, une petite communauté obscure, était différente. Les maisons et les rues étaient propres, les villageois calmes et cultivés, jouissant d'un niveau élevé de santé, de bonheur, d'instruction, de prospérité. Pourquoi Sima Bouquet était-il différent? 30 ans avant, en 1915, un missionnaire en route pour le Japon s'y était arrêté. Avant de repartir, deux personnes s'étaient converties et il leur avait laissé une Bible. Depuis ce jour, les habitants n'ont jamais vu d'autres missionnaires, ni rencontré d'autres personnes, ni groupes chrétiens. Au cours de ces 30 années, les habitants ont pris au sérieux le message de la Bible qui leur a donné la vie. Les deux convertis ont enseigné la vérité de la parole de Dieu aux villageois jusqu'à ce que chacun devienne chrétien. Puis vint l'armée américaine. Clarence Hall, correspondant de guerre à l'époque, a écrit ce qui suit. Un jour, je me suis promené à Simabouké avec un vieux sergent de l'armée. Alors que nous marchions, il s'est tourné vers moi et m'a chuchoté. Je n'arrive pas à comprendre. De voir ce genre de personne résultant d'une simple Bible et deux vieux gars qui voulaient vivre comme Jésus. Puis il ajouta une observation très significative. Peut-être avons-nous utilisé le mauvais type d'arme pour conquérir le monde. Alors, une Bible laissée à deux personnes qui ont pris le message au sérieux, puis ont commencé à le partager, puis ça a eu un impact dans les vies des individus et qui faisait une démarcation nette entre les villages qu'il y avait sur cette île. Dieu avait été à l'œuvre. Sur votre feuille, si vous en avez une, j'aimerais qu'on lise le passage de Actes 17, 1 à 6, pour se mettre dans un autre exemple de Dieu qui utilise sa parole. Alors, Actes 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude pendant trois sabbats et discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules, prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traitèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » J'aimerais qu'on examine brièvement ces quelques versets, ce passage, en se posant quelques questions. Sur quoi Paul se reposait-il son message d'après le verset 2? Ça nous dit l'Écriture. Qui était la personne au cœur de son message? Verset 3. Jésus. C'est lui le Messie. Quelle fut la réponse positive selon le verset 4? Il y en a qui ont été convaincus, puis ils se sont joints à Paul et Silas. Quelle fut la réponse négative après le verset 5? Bien, des Juifs restés incrédules avec des vauriens, provoquèrent des attroupements et semèrent le trouble. Et au verset 6, ces mêmes Juifs qui étaient restés incrédules essaient de on va dire, de susciter une certaine un désordre. Il voudrait que les autorités agissent et mettent un terme, arrête Paul et Silas et les chrétiens, puis les empêcher d'annoncer l'Évangile. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 6? Ces gens qui ont bouleversé le monde. Et dans d'autres traductions, c'est traduit, on peut lire agité, remué, soulevé, troublé. Le sens, c'est ils ont causé du trouble partout. Puis c'est un mot qui est associé à la révolte. La version Sommer traduit ont mis le monde entier sans dessus dessous. Et on pourrait le dire dans nos mots à nous, ces individus ont mis le monde à l'envers. Qui a fait cette remarque concernant Paul et Silas? C'était des Juifs qui sont identifiés comme étant, qui étaient restés incrédules. Puis, leur seul motif, c'est de dire, on va leur fermer la boîte. On va les empêcher de répandre ce message. Pourtant, c'était probablement ces mêmes Juifs qui avaient, pendant ces trois sabbats où Paul avait enseigné, ils étaient présents, ils avaient entendu. Eux qui connaissaient l'Ancien Testament, puis que Paul leur présentait, voici dans l'Ancien Testament les prophéties concernant le Messie, c'est Jésus. Les prophéties ont été accomplies. Mais eux ne voulaient rien savoir. Ils avaient déjà déterminé comment c'était pour s'accomplir, puis ce n'était pas Jésus. Alors, il faut mettre un terme à cela, il faut leur fermer la boîte, les empêcher d'annoncer ce message centré sur la personne de Jésus qui est le Messie promis. Si on retourne au début des Écritures, les Écritures que Paul a utilisées, on voit que Dieu avait créé le monde parfait. Dieu avait créé un monde à l'endroit. Mais avec la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont mangé le fruit défendu, le monde à l'endroit s'est aussitôt retrouvé, comment? À l'envers. À l'envers. Nous naissons dans un monde à l'envers. On est pécheur, perdu, condamné, séparé de Dieu. C'est notre condition naturelle, normale. C'est tellement normal, naturel, qu'il est difficile pour nous d'accepter qu'on soit à l'envers. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dérange. Mais Dieu sachant, connaissant notre condition, et ne voulant pas qu'on reste dans cet état d'être à l'envers, eh bien, il a présenté son plan pour que l'on puisse être remis à l'endroit. Mais c'est qu'on est tellement habitué de vivre à l'envers, croyant qu'on est à l'endroit, que quand on est mis devant le message qu'on est à l'envers, on refuse de l'entendre, puis on refuse la solution que Dieu propose de nous remettre à l'endroit. c'est le fait que Dieu, voyant notre condition, et par sa grâce, par son amour, par sa compassion, sa miséricorde envers nous, eh bien, il a pourvu le moyen, en nous révélant dans sa parole, par son esprit, par son Fils, le moyen qu'il voulait utiliser pour nous remettre à l'endroit. Dans la feuille que je vous ai donnée la semaine passée, j'avais un petit exercice, à savoir comment est-ce que la Bible, la parole de Dieu, est comparée à travers les Écritures. Et vous avez le résultat là, à la fin de votre feuille. La parole de Dieu est comparée à... Alors, ce que je trouve intéressant dans la manière que les exemples ou les comparaisons que Dieu nous donne de sa parole, on voit, il la compare à l'argent, une lampe, un marteau, pain, épée, lait, nourriture solide, miroir, semence. À part l'épée, là, c'est toutes des choses qui font partie de notre vécu quotidien. Mais si on remplace l'épée par un couteau, à steak, ou quoi que ce soit, c'est tout. Ce que je saisis de cela, c'est que Dieu veut nous montrer que sa parole, ça fait partie des choses communes, à utiliser, qui sont utiles dans notre quotidien, dont on peut se servir, dont on peut bénéficier de jour en jour. Trop souvent, on se fait une idée tellement complexe de la Bible qu'on dit, faut pas aller là, là. Faut pas prendre ça au sérieux, là. Puis, tu sais, on va plutôt ramasser, collectionner la poussière avec. J'arrête peut-être, là. Mais, la parole de Dieu, il nous l'a laissé. Il nous l'a laissé pour que ça puisse faire partie de notre être, de notre vécu, de notre quotidien, des situations qui se présentent. Dans Hébreux 4:12, ça dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Bon. Ah, j'ai oublié de mentionner ça. Ça, c'est celui-là que je l'ai mentionné. Je l'ai mentionné, mais je ne l'ai pas affiché. Excusez-moi. C'était, ces individus ont mis le monde à l'envers. Si vous croyez ça? OK, une petite révision de ce qu'on a vu jusqu'à date. On a vu plusieurs évidences que la parole, la Bible est unique, sans pareil, et qu'on peut se fier à son message. Premièrement, son unité remarquable. Ensuite, sa durabilité à travers les âges. Son exactitude historique, sa véracité scientifique, ses accomplissements prophétiques, ses multiples manuscrits qu'on a vus la dernière fois. Alors, on pourrait dire, oui, mais il n'y a rien qui prouve que c'est avec ça que c'est la parole de Dieu. Non. Mais la chose est, c'est que c'est des indications qu'on a affaire à un livre assez unique et particulier. Et c'est un élément de foi d'arriver et de dire, ben c'est la parole de Dieu, j'accepte que c'est la parole de Dieu. Ce matin, on va ajouter une couple d'autres. Premièrement, évidence de son honnêteté absolue. On a dans le psaume 19, 8 à 10, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai et rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Vous avez remarqué les qualificatifs qui sont donnés aux différents noms qui se rapporte à la parole de Dieu, parfaite, vraie, droit, clair, pur, il répète vrai, puis juste. Dieu étant saint, parfait, véridique, il va de soi qu'il est honnête. Parce que aussitôt qu'il serait malhonnête, ses caractéristiques, ses attributs, mais ça ne ferait plus partie de sa personne. Donc, sa parole, la Bible, devrait donc refléter des qualités que l'on retrouve chez Dieu. Le caractère de la Bible, on pourrait l'exprimer ainsi. La Bible n'est pas un livre que l'homme aurait pu écrire s'il avait voulu, ni qu'il aurait voulu écrire s'il avait pu. Prenons la première partie de la phrase. L'homme n'aurait pas pu écrire la Bible s'il avait voulu. Même s'il avait eu toute la spiritualité nécessaire, l'homme n'aurait pas pu connaître les faits historiques, scientifiques et prophétiques qui nous sont rapportés dans la Bible et qu'on a mentionnés précédemment. Par conséquent, sans l'intervention de Dieu, l'homme n'aurait pas pu écrire la Bible. On prend la deuxième partie de cette phrase. L'homme n'aurait pas voulu écrire la Bible s'il l'avait pu. Imaginons que Dieu ait donné aux hommes pécheurs toutes les compétences et toute la connaissance des sujets abordés dans la Bible. Même dans ces conditions, il n'aurait pas voulu écrire la Bible. Pourquoi? Je vous donne des possibilités. À cause des failles que Dieu révèle chez ceux qui lui appartiennent. Pensez aux divers personnages qui nous sont présentés, qui sont mentionnés dans la Bible. Dont un bon nombre sont mentionnés ou paraissent dans la liste des héros de la foi dans Hébreux 11. Par exemple, on voit que sont nommés Noé, Abraham, Jacob, Moïse, David, puis il y en a tellement d'autres, puis il y en a bien qui n'ont pas été inclus dans cette liste-là. De tous les personnages bibliques dont vous avez lu, que vous avez déjà entendu un message ou lu un livre quelconque, lesquels ressortent sans faille, sans défaut, qui sont impeccables et irréprochables. Combien? Aucun. Alors, un écrivain humain aurait probablement passé sous silence des détails peu élogieux sur ces personnages bibliques. Parce que on ne veut pas porter atteinte à leur réputation, n'est-ce pas? Ça serait notre réflexe. C'est tellement un bon gars, ça-là, là, ou une bonne femme, que tu ne veux pas dire quelque chose de mauvais à leur sujet parce que, hey, ça va dégonfler leur ballon. Et quand on arrive dans les évangiles, est-ce que vous avez déjà vu des quelques passages où ce que c'est que les disciples, ils ont des accrochages, ils s'engueulent ou, tu sais. Puis qui les avait choisis, ces gars-là? Aïe. Il a pas choisi la bonne gang. Hein? Est-ce qu'un écrivain humain aurait osé rapporter le reniement de Pierre? D'abord, il avait déclaré, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Il était convaincu, probablement. Il était sincère. Dans le temps de le dire, il dit, en jurant, « Je ne connais pas cet homme. » Hey! Voyons, pourquoi écrire une affaire de même? Pauvre Pierre, il commençait juste à avoir le dessus. Tout d'un coup, tu l'as en face, puis il se pète en barboulette à terre. Puis en plus, tu es rapporté. Alors ça, c'est une des raisons à cause des failles que Dieu révèle chez ceux qui lui appartiennent. Ensuite, à cause des qualités que Dieu révèle chez certains de ceux de ses adversaires. D'une part, il n'hésite pas à souligner les aspects négatifs chez ceux qui de son peuple, mais d'autre part, il n'hésite pas non plus à faire état du bien qu'il trouve chez ses ennemis. Et là, on pourrait donner comme exemple Ésaü, Artaxerxès, Darius, Gamaliel, Julius, où il y a certaines qualités qui sont mentionnées à leur égard. Et si c'est quelque chose que je peux vous donner les versets à un moment donné, vous viendrez me voir. Je ne voulais pas m'attarder là. Alors ça, c'est la deuxième raison. Puis ensuite, c'est à cause de certains enseignements qui répugnent l'esprit humain, des sujets que l'homme naturel rejette. Et parmi ceux-là, on a l'enfer éternel. Ben non, ben non. On n'écrira pas là-dessus. On ne veut pas faire peur au monde. Deuxièmement, l'incapacité complète de l'être humain de se sauver par ses propres efforts. On n'écrirait pas ça parce que, voyons, on veut donner de l'espoir aux gens. C'est-à-dire, ah oui, fais ton mieux, puis là, si tu fais plus de bien que de mal, ben ça va jouer en ta faveur, puis en bout de ligne, du fait que Dieu est amour, ben il va te laisser passer. Troisièmement, le jugement final des sauvés et des perdus. Puis, on pourrait en rajouter. Il y a certains sujets qui nous dérangent, qui dérangent l'humanité. Puis, si on nous donnait la liberté, si Dieu nous donnait la liberté de dire, OK, tu vas lire la Bible, là, puis tous les versets qui te dérangent, là, qui ne font pas ton affaire, tu peux les enlever. Qu'est-ce qui resterait? Il resterait peut-être la page titre, puis puis ça, on dirait, bien, ça, c'est le message de Dieu, qui voudrait dire, il n'a rien dit. Mais ça, c'est une supposition. Dieu ne nous a pas, dans un sens, donné cette liberté-là. La Bible n'a pas pour but d'embellir des choses, mais elle nous présente la vérité telle qu'elle est, que cela fasse notre affaire ou non. Elle expose notre condition spirituelle de façon honnête. Nous sommes condamnés, perdus, séparés de Dieu, destinés à la mort éternelle. Dans notre état naturel, nous sommes complètement à l'envers. Même si on croit qu'on est à l'endroit. Et ça, c'est, en disant cela, je m'adresse pas juste à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais à ceux qui connaissent aussi le Seigneur. Parce que juste parce qu'on a placé notre foi en Christ et qu'on est devenu son enfant, on est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, ce n'est qu'un commencement. Il y a tout un processus que Dieu veut faire en nous pour nous remettre à l'endroit. Même après qu'on ait été remis à l'endroit initialement. Il y a tellement de nos pensées qui ont besoin d'être ajustées. d'être redressé. Alors oui, on est à l'envers, mais Dieu, par sa parole, révèle son plan en Jésus-Christ pour qu'on puisse avoir le pardon, être réconcilié avec lui, obtenir la vie éternelle si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, qui a subi la punition que l'on méritait en étant suspendu à la croix, en subissant notre jugement. Mais il n'est pas resté là, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, démontrant sa victoire sur le péché et sur la mort. Ensuite, on peut rajouter l'évidence de son influence universelle. Alors, c'est basé un peu sur le verset qu'on a eu tantôt dans Acte 17, 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. La parole de Dieu fait toujours une différence dans les cultures où elle est introduite. Il est normal que la Bible ait une influence dans la société, dans les individus, parce que, inévitablement, on ne peut pas rester indifférent. Parce que soit qu'on va l'accepter, ou on va la rejeter. Mais en la rejetant, ça démontre qu'on n'est pas indifférent. Puis on peut aller même jusqu'au point de s'y opposer, on veut s'en débarrasser, comme ça a été évident à travers l'histoire. Alors, elle a eu son influence dans les systèmes législatifs et juridiques. La Bible a inspiré la plupart des lois des pays occidentaux qui défendent les droits de la personne humaine, prône l'égalité et la justice. Et oui, même dans la société occidentale, dans les sociétés occidentales, il y a eu des abus, puis il ne l'appelait pas toujours, mais fondamentalement, la Bible a eu une influence sur les systèmes législatifs et juridiques. Sur le calendrier que nous utilisons, nous sommes en quelle année? 2023. Comment ça qu'on n'est pas en 3023? 4023? Y a-t-il quelqu'un qui s'est trompé? C'est basé sur quoi cette date-là, 2023? Plus ou moins la date de la naissance de Jésus-Christ. Ensuite, la Bible a eu l'influence sur les arts. Peut-être vous, comme moi, vous ne connaissez pas grand-chose là, mais il y a des œuvres littéraires. Il y a des personnes qui ont... Ils sont inspirés de la Bible pour écrire, soit pour l'attaquer ou pour, on pourrait dire, en tirer des récits. Et là, je vous nomme Pascal, Voltaire, Rousseau, Hugo. Il y a des œuvres artistiques, des chefs-d'œuvre représentant des scènes bibliques se trouvant dans presque tous les grands musées du monde. Des œuvres de Léonard de Vinci, Rembrandt, Raphaël, Michel-Ange, c'est-à-dire, puis il y en a tellement d'autres. Des œuvres musicales. La Bible a inspiré davantage d'œuvres musicales que tous les autres écrits du monde. Des compositeurs comme Bach, Mendelssohn, Brahms, Beethoven, Handel, Haydn, puis il y en a probablement bien d'autres. Puis certaines de ces œuvres sont des classiques reconnus par le monde, au moins la musique, pas nécessairement le contenu. Mais la plus grande influence que la Bible a, c'est sur la vie spirituelle de l'être humain. La Bible présente des vérités qui sont loin d'être pour être conçues par l'esprit humain, l'imagination humaine. Premièrement, Dieu est parfait, saint, sans défaut. D'autre part, l'homme est pécheur et mérite la mort. La relation de l'homme avec Dieu est brisée. L'homme ne peut, par ses propres moyens, restaurer la relation brisée. Alors, quand on fait le bilan de ces quelques points, la seule chose qu'on peut conclure, c'est qu'on est à l'envers. On est à l'envers. Ensuite, on voit que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour subir à la place du pécheur la punition qu'il méritait. Et par la foi en Jésus, l'homme obtient le pardon de ses péchés et la relation est restaurée. Cette relation brisée avec Dieu est restaurée. On est remis à l'endroit. Puis dans tout ce que c'est que la Bible révèle, eh bien, il n'y a aucune religion qui peut faire nous remettre à l'endroit. Pas une. Mais c'est ça qui était le but de Dieu, voyant notre condition. Il a pourvu le seul moyen pour que cela puisse se réaliser. En considérant ce que la parole de Dieu, la Bible, nous révèle, est-ce qu'elle ne mérite pas notre attention toute particulière? Étant véritable et fiable dans autant de domaines que nous avons vus par le passé, est-ce qu'elle est moins véritable et fiable quand elle nous dit que le seul moyen de connaître Dieu, c'est par Jésus-Christ? Quand elle nous dit que nous moissonnerons ce que nous aurons semé, faisons-nous attention de semer ce qui est pour la gloire de Dieu? Quand elle nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pourquoi est-ce qu'on doute, pensant que ça doit être pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on laisse la parole de Dieu avoir une influence marquée dans notre vie au quotidien? C'était une des raisons pourquoi que Dieu nous a laissé sa parole. Neuvièmement, évidence de sa diffusion mondiale. Dans un verset dans Actes 12, 24, ça dit, quand la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Et dans votre esprit, vous voyez des Gédéons en train de distribuer des Bibles, n'est-ce pas? Avec ce verset? Mais Gédéon n'existait pas à ce moment-là, pour une chose. Puis, les gens n'avaient pas des copies. Combien ont de Bibles ici ce matin? OK? Combien que vous avez à Mévoline? Puis, où sur votre téléphone? OK? À ce temps-là, ça ne marcherait pas de même, là. La parole se propageait, c'est parce qu'il y avait des messagers qui la propageaient. Ils ne pouvaient pas dire, ben, sors ton Nouveau Testament ou sors ton Ancien Testament. Et là, ils déroulaient ça. Hein? Mais la parole se propageait. Et Dieu veut continuer à se propager. Le premier ouvrage imprimé de l'histoire est la Bible, en 1455. quand que l'imprimé fut inventé par Gutenberg. Avant ça, c'était tout copié à la main, comme on a vu la dernière fois. Et la Bible en la première Bible en français a été imprimée 5 ans plus tard. J'aimerais vous parler de la traduction. C'est peut-être un peu petit, là, mais en tout cas. La Bible est le livre le plus traduit au monde. On a la Bible en entier est disponible en 736 langues pour 6 milliards de personnes. Le Nouveau Testament, lui, est disponible en 1658 langues pour 824 millions de personnes. Puis, certains passages bibliques, là, on va en dire ça, 1264 pour 449 millions de personnes. Je trouve ça un peu ironique qu'un livre supposément démodé, fiable, si peu fiable, qui ne remplit que de mythes, soit traduit dans tant de langues. Et aujourd'hui même, présentement, il y a des équipes qui sont en train de traduire la Bible dans 3283 langues dans 167 pays. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore. Ensuite, la distribution. Et ça, c'est les chiffres pour 2022 par les sociétés bibliques mondiales. Il y a eu, je sais que c'est petit, là, mais en tout cas, je m'excuse, je pensais que ça aurait dû plus me concentrer là, puis que ça soit plus gros. Mais c'est le nombre de produits bibliques distribués en 2022, c'est 166,4 millions. De cela, ben, le nombre de Bibles, c'est 35,5 millions. Puis, 28% de ça, c'est par téléchargement, c'est-à-dire qu'il y en a qui mettent ça sur le téléphone. Le Nouveau Testament, 7 millions. Délivrés aux sélections, eh bien, c'est 123,8 millions. La Bible serait le livre le plus vendu de tous les temps. Et là, revient une question similaire à celle que je disais. Comment se fait-il qu'un livre datant de l'Antiquité continue à être le meilleur vendeur au monde? Et sur votre feuille, il y a un code QR. C'est une vidéo en anglais que Gaston m'a envoyée. Mais ça raconte l'histoire d'un peuple que pendant des années, il n'y avait pas la parole de Dieu dans leur langue. Les missionnaires sont allés et ont traduit. Puis dans cette vidéo, eh bien là, ils sont en attente. La livraison va se faire. Puis, mais ça, j'ai checké pour voir s'il y a 7 ans en français, mais... Malheureusement, non. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé, ça existe. Mais, juste regarder, ça ne dure pas longtemps, mais ça démontre des personnes qui attendaient avec anticipation d'avoir la parole de Dieu dans leur langue. Le pasteur, il raconte un peu, à un moment donné, il dit, « Avant ça, là, il fallait que je prêche en utilisant une Bible dans une autre langue. » Il fallait que je la traduise. Mais là, il dit, on l'a dans notre langue. Et ça, c'est des histoires qui se répètent, on a entendu, à maintes et maintes reprises de divers missionnaires. Et il y a des gens qui désirent, qui aspirent, qui veulent avoir cette parole dans leur langue pour la lire, pour l'étudier, la méditer, pour savoir ce que Dieu dit de lui-même et ce qu'il a à nous dire en tant qu'être humain. Ensuite, c'est l'évidence de son pouvoir de transformer. Dans Actes 26, 18, c'est Paul qui raconte son témoignage de ce que le Seigneur lui a dit. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Voilà le mandat que le Seigneur Jésus avait confié à l'apôtre Paul, qu'il a confié à ses disciples, qui nous confie aussi à nous, qui le connaissons. Une des grandes preuves que la Bible est vraiment la parole de Dieu réside dans sa capacité à transformer le cœur humain par l'entremise de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs sites qui sont accessibles sur Internet de personnes qui partagent leur témoignage de comment ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ et la manière qu'il a transformé leur vie. J'en lisais un qui rapportait qu'un homme qui vivait dans les rues d'une grande métropole depuis 10 ans. Avant cela, il avait passé plus de 9 ans en prison. Il était accro aux drogues. Son surnom dans les rues de la ville était Grand Jean, parce qu'il était un grand type qui, à une certaine époque, avait boxé pour l'armée. À un moment donné, Grand Jean est venu dans un centre pour les sans-abri pour y passer la nuit. Il est venu avec son ami, qui avait le nom, qui s'appelait Petit Jean. Mais Grand Jean a tellement aimé le moment où on l'a accueilli, puis qu'on en a pris soin, les jeunes s'en occupaient, puis il a ensuite commencé à venir aux rencontres qu'il y avait de l'Église. Il a éventuellement reconnu qu'il était pécheur et que ce que Christ avait fait pour lui à la croix, et il a placé sa confiance en Jésus-Christ. Et il a accepté le pardon que Dieu lui offrait en Jésus. Dieu l'a aidé à arrêter de prendre la drogue. Dieu a transformé sa vie. Il a fait passer du désespoir à l'espoir. Il a commencé à parler de Jésus à ses amis, les invitant à venir avec lui à l'église. Et son surnom a passé de Grand Jean à Jean-Baptiste. Il s'est réconcilié avec sa mère et sa fille, et il a maintenant une relation avec ses petits-enfants qu'il n'avait jamais rencontrés jusque-là. On peut penser, oui, mais ça, c'est des... Oui, lui, il en avait vraiment besoin, là. Puis, on en a tous besoin. Quel que soit notre arrière-plan, on veut dire, on est au même point. On est perdu, on est condamné. On a besoin d'un sauveur. Et c'est Jésus, par sa parole, par son esprit, qui change les vies. C'est le message de la parole de Dieu qu'il utilise pour mettre à l'endroit ce qui est à l'envers. Walter Scott, un chrétien, était sur son lit de mort. Il demande à sa secrétaire, « Apporte-moi le livre. » Sa secrétaire se rend à la bibliothèque et elle voit un paquet de livres. Elle demandait, « OK. » Alors, elle retourne le voir, elle va dire, quel livre au juste que tu parles, que vous parlez? Il dit, le livre, la Bible, l'unique livre pour un homme mourant. Et ça, j'ai pris ça dans c'est John MacArthur qui partage dans son message, dans un certain message, cette histoire. Puis là, mais il dit, continue avec l'idée, la Bible n'est pas seulement l'unique livre qui importe pour un homme mourant, mais c'est le seul livre qui compte pour un homme vivant ou une femme vivante. Puis laissez-moi vous poser, puis je me pose la même question. Est-ce que ce livre, la Bible, compte pour moi? Compte pour toi? Alors, nous avons vu plusieurs raisons pourquoi on peut se fier au message de la Bible. Mais ce qui est vraiment, ce que je trouve étonnant, ou en tout cas spécial de la part de Dieu, c'est qu'il ne force la main à personne d'y croire ou de le croire en lui, de placer sa confiance en lui. Il nous accorde la liberté de faire un choix personnel, chacun pour soi. Dieu seul sait où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, à quel point vous êtes à l'envers. Moi, je ne sais pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu peut faire un travail dans chacune de nos vies pour nous remettre à l'endroit. Dans Acte 17, on a lu précédemment que certains ont été convaincus, d'autres sont restés incrédules au message des Écritures. Dans le même chapitre, un peu plus loin, on voit que Paul et son équipe se retrouvent à Bérée, où ils enseignent les Écritures. Dans Acte 17, 11, ça dit, ces derniers, en parlant des gens de Bérée, ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si nous reconnaissons que nous sommes venus au monde pécheurs à l'envers et que nous désirons nous retrouver à l'endroit, il n'y a qu'un seul moyen. C'est la solution que Dieu offre par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Et il nous invite de mettre notre confiance en lui pour être pardonné nos péchés, d'être réconcilié avec lui, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et ce message est présenté dans la Bible, la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'on fait de la parole de Dieu? Si je prends le temps de m'examiner moi-même devant Dieu, si j'étais tout seul, là, et si vous n'êtes pas capable de le faire maintenant, le faites chez vous, enfermez-vous dans le garde-robe, je ne sais pas trop quoi, là, mais... Puis de se poser la question, est-ce que je suis parmi ceux qui sont restés infidèles ou incrédules, c'est-à-dire? Ou est-ce que je suis de ceux qui ont été convaincus? Ou, basé sur le verset qu'on vient de lire, parce que je suis de ceux qui continuent à examiner chaque jour les Écritures. Notre désir est-il de progresser avec l'aide de l'Esprit de Dieu afin de vivre de plus en plus à l'endroit et de moins en moins à l'envers? Je vous laisse avec ce verset dans Romains. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions. Mon Père Céleste, merci pour qui tu es. Merci que voyant notre condition, que tu es intervenu pour nous secourir, nous remettre à l'endroit. Et merci que tu ne te lasses pas de continuer ce travail. Seigneur, que tu continues ton œuvre en nous, par ta parole, par ton esprit, et qu'on puisse justement désirer d'être de plus en plus à l'endroit et de moins en moins à l'envers. À la gloire de ton nom. Amen.